Chapitre 3. Cette opposition au nouvel hôpital pour les fiévreux, dont Lydgate avait parlé à Dorothée, on pouvait, comme toutes les oppositions, la considérer sous différents points de vue. Lydgate la regardait comme un mélange de jalousie et de préjugés stupides. M. Bulstrode y voyait non seulement une jalousie de métier, mais la résolution de le contrarier. Uniquement inspiré par la haine de cette religion fondamentale, dont il s'était efforcé de devenir, lui, laïque, le représentant actif. Une haine qui, en dehors de la religion, n'avait pas de peine à trouver de ses prétextes, comme en fournit toujours abondamment le labyrinthe des actions humaines. De par sa propre et solennelle affirmation, Mrs. Dollop, l'hôtesse du Hanap, en était arrivée à se convaincre que le docteur Lydgate avait l'intention de laisser mourir les gens à l'hôpital, sinon de les empoisonner, pour le plaisir de les disséquer. Car c'était un fait avéré qu'il avait voulu disséquer Mrs. Gobe de Farley Street, une femme aussi respectable qu'aucune autre, qui avait des économies avant son mariage. Et c'était une triste affaire pour un médecin qui, s'il valait quelque chose, devait savoir, avant votre mort, ce que vous aviez, et ne pas vous aller fouiller dans l'intérieur une fois que vous étiez parti. Si ce n'était pas là la raison même, Mrs. Dollop voudrait bien savoir où elle était. Mais dans son auditoire dominait le sentiment que son opinion était un rempart, et que, ce rempart détruit, il n'y aurait plus de limite à la dissection des corps. Et n'allez pas croire que l'opinion du Hanap dans Slaughter Lane fut sans importance pour la profession médicale. Ce vieux cabaret authentique, le seul vrai Hanap, était le rendez-vous d'une grande association de bienfaisance qui avait mis au vote, quelques mois auparavant, la question de savoir si l'on n'évincerait pas le médecin de longue date, le docteur Gambit, pour le remplacer par ce docteur Lydgate, capable d'accomplir les cures les plus merveilleuses et de sauver des malades absolument condamnés par les autres praticiens. Mais la balance avait été retournée contre Lydgate par deux membres de l'association, aux yeux de qui, apparemment, c'était une équivoque recommandation que ce pouvoir de ressusciter des gens considérés comme morts, un pouvoir capable d'entraver les vues de la Providence. Dans le courant d'une année, d'ailleurs, il s'était opéré dans le sentiment public un changement dont l'unanimité du cercle Dollop était un indice. Un an ou deux auparavant, avant que l'on connût rien de l'habileté de Lydgate, chacun le jugeait naturellement à un point de vue différent, et avec une apparence de vraisemblance, dont on pouvait peut-être retrouver le point de départ dans le creux de l'estomac ou dans la glande pinéale. Les malades atteints de maux chroniques, ou ceux dont la vie était depuis longtemps usée jusqu'à la corde, comme le vieux Featherstone, avaient été naturellement disposés à essayer de lui. De même, plusieurs personnes qui n'aimaient pas à payer les notes de leur médecin trouvait commode d'ouvrir un compte avec un nouveau docteur, et de le faire chercher, sans y regarder, dès que la santé des enfants réclamait un médicament, occasion dans laquelle les vieux médecins manquaient de zèle. Et toutes les personnes disposées à se servir ainsi de Lydgate aimaient à le croire habile dans son art. Les bonnes familles de Middlemarch n'allaient pas d'ailleurs changer de médecin sans raison péremptoire, et tous ceux qui avaient employé M. Peacock ne se tenait pas pour obligé d'accepter un nouveau venu qui très probablement ne le valait pas, sous le seul prétexte qu'il était son successeur. Lydgate, cependant, n'était pas depuis longtemps dans la ville, que déjà on rapportait sur son compte assez de détails pour faire naître des espérances plus précises et transformer les divergences d'opinion en lutte de partisans. Un bruit qui ne tarda pas à se répandre, c'est que Lydgate ne distribuait pas de drogue. C'était là une façon d'agir également blessante pour les chirurgiens apothicaires, parmi lesquels il se rangeait, et pour les médecins, aux yeux desquels c'était un privilège réservé aux docteurs médecins de Londres de se faire payer des consultations sans fournir de médicaments. Mais Lydgate n'avait pas acquis assez d'expérience pour prévoir que ce seraient les malades qui se sentiraient encore le plus blessés de la nouvelle voie qu'ils voulaient suivre. Et un jour que M. Momsey, important épicier du Top Market, qui n'était pas de ses clients, en causait avec lui, il fut assez inconsidéré pour lui donner en gros l'explication de ses raisons. marquant à M. Momsey que ce serait abaisser le caractère de ses confrères et en faire constamment tort au public que de leur faire chercher l'unique rémunération de leurs soins dans l'établissement de longues notes pour des potions et des mixtures. C'est ainsi que de véritables médecins, se donnant beaucoup de peine, peuvent arriver à faire à peu près autant de mal que de purs charlatans. Pour gagner leur pain, ils sont forcés d'outrer les doses des sujets du roi. Et c'est une trahison d'une vilaine espèce, M. Momsey. Cela mine fatalement la Constitution. M. Momsey n'était pas seulement commissaire des pauvres. Son entrevue avec Lydgate se rapportait à ses fonctions. Il était aussi asthmatique et père d'une famille qui s'accroissait rapidement. C'était donc, au point de vue médical, aussi bien qu'à ses propres yeux, un homme important pour tout dire, un épicier exceptionnel, portant les cheveux dressés en pyramide et lancés comme une flamme, dont les formes scrupuleusement respectueuses étaient du genre cordial, encourageant, plaisamment complimenteur, et s'abstenant prudemment de laisser sortir toute la pleine force de son esprit. C'était sur un ton de plaisanterie amicale que M. Momsey avait questionné Lydgate et que celui-ci naturellement lui avait répondu. Mais que les sages se défient d'une trop grande facilité à donner des explications. C'est, pour des calculateurs médiocres, multiplier les sources d'erreurs en allongeant l'addition. Sans bien savoir de quel sujet du roi il pouvait être question, toutes les notions de l'épicier se trouvaient troublées. Pendant des années, il avait toujours payé des notes où se trouvaient exactement inscrits tous les articles en compte, de façon à être certain d'avoir bien reçu, pour chaque demi-couronne, pour chaque pièce de 18 pence, quelque chose de mesurable. Il avait agi en cela en plein contentement de lui-même, sous sa responsabilité de mari et de père, et regardant une note plus longue qu'à l'ordinaire comme un surcroît de dignité. De plus, indépendamment des effets bienfaisants des drogues, en général, pour lui et sa famille, il avait goûté le plaisir de se former un jugement raisonné sur leur action immédiate, de façon à pouvoir donner un exposé intelligent de la méthode du docteur Gambit, praticien d'un rang un peu inférieur à Rensch et à Toller, mais spécialement estimé comme accoucheur. Il y avait là de plus profondes raisons que dans le langage superficiel d'un nouveau venu, langage qui fit plus piètre effet encore dans le salon au-dessus de la boutique quand il le rapporta à Mrs. Momsey, celle-ci étant habituée à ce qu'on eût pour elle la considération due à une mère féconde, confiée généralement aux soins plus ou moins fréquents de M. Gambit et prise occasionnellement de crises qui réclamaient le docteur Minchin. Ce M. Lydgate prétend-il dire que les médicaments ne servent à rien ? Dit Mrs. Momsey, en traînant, suivant son habitude, légèrement ses paroles. « Je voudrais bien qu'il me dise comment je pourrais me soutenir au moment de la foire, si je ne prenais un mois à l'avance des médecines fortifiantes. Pensez à tout ce que j'ai à faire pour attirer les chalands, ma chère. » Ici Mrs. Momsey s'adressa à une habituée de la maison qui était avec elle. « Un grand pâté de veau, un filet farci, un bœuf roulé, du jambon, de la langue, etc. etc. Mais ce qui me soutient le plus, c'est la drogue rose et pas la brune. Je m'étonne, monsieur Momsey, qu'avec votre expérience, vous ayez eu la patience de l'écouter. Je lui aurais dit tout de suite que je m'y connaissais un peu mieux que cela. Non, 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 dit monsieur Momsey, je n'aurais pas été lui dire mon opinion. Entendre tout et juger pour soi-même, c'est ma devise. Mais il ne savait pas à qui il parlait. Je ne suis pas fait pour qu'il me retourne avec le doigt. Il y a souvent des gens qui prétendent m'instruire, quand ils pourraient tout aussi bien me dire « Momsey, vous n'êtes qu'un imbécile. » Mais j'en souris. Je flatte le faible de chacun. Si la médecine nous avait fait du mal, à moi et à ma famille, j'aurais eu le temps de m'en apercevoir à l'heure qu'il est. Le lendemain, on répéta à M. Gambit que Lydgate allait partout disant que les médecins ne servaient à rien. « Vraiment ?» dit M. Gambit, levant les sourcils avec une expression de prudente surprise. C'était un homme robuste et dur, portant un large anneau à son quatrième doigt. Comment guérira-t-il donc ces malades? C'est ce que je dis, repartit Mrs. Momsey. Croit-il qu'on le paiera pour venir simplement s'asseoir en face des gens et repartir ensuite? Eh, mais Lydgate est un garçon de bonne mine, vous savez. Ce n'est toujours pas lui que je voudrais appeler, dit Mrs. Momsey, que les autres fassent comme il leur plaît. C'est ainsi que M. Gambit put quitter l'importante maison de l'épicier sans craindre de rivalité, mais non sans le sentiment que Lydgate était un de ces hypocrites qui essaient de discréditer les autres en faisant parade de leur propre honnêteté et qu'il vaudrait la peine de démasquer un jour. M. Gambit était toutefois satisfait de sa clientèle. Une clientèle sentant, il est vrai, un peu le petit commerce, réclamant une réduction sur la note quand on payait comptant. Et il ne trouvait pas que ce fût la peine pour lui de démasquer Lydgate avant de bien savoir comment s'y prendre. Il n'avait pas reçu une éducation très soignée, et il avait dû, pour faire son chemin, lutter contre le dédain de beaucoup de ses confrères. Mais il n'en faisait pas moins un bon accoucheur pour appeler l'appareil respiratoire les poumons. D'autres hommes du métier se sentaient plus de valeur. M. Toller, qui avait une partie de la plus haute clientèle de la ville, appartenait à une ancienne famille de Middlemarch. Il y avait des Toller dans la magistrature et dans les professions au-dessus du commerce de détail. Tout au rebours de notre irascible ami Wrench, il savait prendre légèrement les choses désagréables. C'était un homme bien élevé, doucement facétieux, vivant sur un bon pied, très amateur d'un peu de sport à l'occasion, grand ami de M. Hawley et hostile à M. Bulstrode. Il peut paraître étrange qu'avec de si douces habitudes, il fût en médecine l'homme des traitements héroïques, saignant, affamant, couvrant de vésicatoires ses malades, avec un tranquille mépris de son exemple personnel. Mais cette inconséquence favorisait la bonne opinion que se formaient les malades de ses capacités. Ils observaient généralement que si M. Toller avait des manières un peu molles, son traitement était aussi énergique qu'on pouvait le désirer. Il était fort apprécié dans son cercle d'amis, et tout ce qu'il insinuait de défavorable à autrui empruntait à son ton d'insouciante ironie une double valeur. Il se fatigua naturellement de toujours sourire et de dire « Ah !» chaque fois qu'on lui répétait que le successeur de Peacock ne voulait pas distribuer de médicaments. Et M. Hackbutt, lui en parlant un jour, à un grand dîner, entre deux verres de vin, M. Toller repartit en riant. Dibbitts pourra donc se débarrasser de toutes ces vieilles drogues rances. J'aime beaucoup le petit Dibbitts. Je suis content de la chance qui lui arrive. Je vois ce que vous voulez dire, Toller, reprit M. Hackbutt, et je suis absolument de votre avis. J'en dirai à l'occasion ma façon de penser. Un médecin devrait être responsable de la qualité des médicaments que prennent ses malades. C'est le point de départ logique du système appliqué jusqu'ici, et il n'y a rien de plus fâcheux que cette ostentation de réforme là où il n'y a pas de progrès réel. Ostentation, Hackbutt, dit M. Toller ironiquement, je ne vois pas cela. On ne peut guère faire de l'ostentation pour une chose à laquelle personne ne croit. Il n'y a pas de réforme en cette matière. La question est de savoir si c'est le droguiste ou le malade qui paiera au médecin son bénéfice sur les médicaments, et si les soins médicaux seront payés à part. Ah, certes, encore une de vos satanées innovations de la charlatanerie, fit M. Hawley, passant le carafon à M. Wrench. Ce que je combats, moi, reprit celui-ci, qui, habituellement sobre, se laissait volontiers aller à boire quand il était en compagnie, et en devenait plus irritable, ce que je combats, c'est la manière dont les hommes de notre profession sont en train de souiller leur propre nid, avec toutes les clameurs qu'ils élèvent dans le pays, comme si un praticien général ne pouvait pas être un gentleman, tout en vendant des drogues. Je repousse cette imputation avec dédain. Je le dis ici, la jonglerie la moins digne d'un gentleman qu'un homme puisse commettre, c'est d'arriver au milieu de ses confrères avec des innovations qui constitue une diffamation pour leur procédé sanctionné et consacré par le temps. Telle est mon opinion, et je suis prêt à la soutenir contre quiconque me contredirait. La voix de M. Wrench était devenue extrêmement aiguë. « Mon cher ami, dit M. Toller, entrant pacifiquement dans la conversation et regardant M. Wrench, on marche plus souvent encore sur les pieds des médecins que sur les nôtres, à nous, praticiens généraux. Et puis, voyez-vous, au regard de la clientèle, cette réforme est une absurdité. Il n'y aura pas un malade qui en soit content, et certainement pas ceux de Peacock, qui ont été habitués aux évacuants et aux saignées. Passez-moi le vin. » La prédiction de M. Toller se trouva en partie justifiée. Si M. et Mrs. Momsey, qui n'avaient nulle idée d'employer Lydgate, avaient été un peu troublés par son aversion supposée pour les drogues, il était inévitable que ceux qui l'appelaient le surveillassent avec quelque inquiétude pour voir s'il employait bien tous les moyens possibles dans les cas qu'il avait à soigner. Mais dans cette période critique de ses débuts, Lydgate fut heureusement aidé par ce que nous autres mortels appelons inconsidérément la chance. Il n'est pas, je crois, de médecin nouveau qui ne soit jamais arrivé dans un endroit sans y faire des cures qui frappent tout le monde, des cures qu'on peut appeler les certificats de la chance et qui méritent autant de crédit que toutes les cures écrites ou imprimées. Plusieurs malades guérirent pendant que Lydgate les soignait. Quelques-uns même revinrent de dangereuses maladies et on remarqua que le nouveau docteur, avec ses nouvelles méthodes, avait au moins le mérite de ramener les gens du bord de la tombe. Le bruit qu'on faisait en de telles occasions était particulièrement désagréable à Lydgate, en ce qu'il lui donnait précisément cette sorte de prestige que peut souhaiter la médiocrité sans scrupules, fait pour servir de prétexte aux imputations des autres médecins, dont l'aversion naissante lui reprocherait d'encourager ces énormes bourdes de l'ignorance pour se faire mousser. Sa fierté eût été tentée de s'en justifier tout haut, sans la sage réflexion qu'il était aussi inutile de combattre les interprétations de l'ignorance que de fouetter le brouillard. Et la chance persistait à se servir de ces interprétations. Mrs. Larcher, charitablement inquiète de certains symptômes alarmants dans la santé de sa femme de ménage, pria le docteur Minchin, un jour qu'il vint la voir, de s'occuper un peu d'elle et de lui donner un certificat pour l'hôpital. Sur quoi, après l'avoir examinée, M. Minchin rédigea un exposé de son cas dans lequel il reconnut une tumeur et recommanda la personne munie du billet, Nancy Nash, comme malade externe. Nancy laissa lire le papier du médecin Minchin aux gens dans le grenier desquels elle logeait, et la tumeur dont elle était affligée devint un sujet de conversation et d'apitoiement dans les boutiques du voisinage. Une tumeur qu'on déclarait d'abord de la taille et de la dureté d'un œuf de canard, puis un peu plus tard dans la journée, de la dimension de votre poing. La plupart des interlocuteurs pensaient qu'on serait obligé de faire une opération pour l'enlever. Mais l'un avait entendu parler d'une certaine huile, l'autre d'une espèce de chien-dent, propre à attendrir et à réduire toutes les grosseurs internes, à condition d'en prendre assez, l'huile en ramollissant graduellement, le chien-dent en l'absorbant peu à peu. Cependant, lorsque Nancy se présenta à l'hôpital, il se trouva que c'était un des jours où Lydgate y était de service. Après l'avoir questionné et examiné, Lydgate dit à voix basse à l'interne « Ce n'est pas une tumeur, c'est une crampe ». Il lui fit une prescription et il lui dit de rentrer se reposer. La douleur s'étant portée sur une autre région, Lydgate lui continua ses soins dans son grenier pendant une quinzaine de jours, au bout desquels elle se trouva tout à fait guérie et retourna à son ouvrage. On n'en continua pas moins dans le quartier à parler de son cas comme d'une tumeur, et Mrs. Larcher elle-même. Car lorsqu'on raconta la merveilleuse cure de Lydgate au docteur Minchin, il ne se soucia pas, bien entendu, d'avouer que le cas n'était pas une tumeur et qu'il s'était trompé en le jugeant tel. Mais répondit, « En vérité, ah, je savais bien que c'était une affaire de chirurgie et nullement fatale. » Il avait pourtant été intérieurement fort ennuyé lorsqu'il s'était informé à l'hôpital de la femme qu'il y avait recommandée 2 jours auparavant d'apprendre l'exacte vérité de la bouche de l'élève chirurgien qui n'était pas fâché de vexer en toute impunité le docteur Minchin. Il déclara en particulier qu'il était indécent de la part d'un praticien général de contredire aussi publiquement le diagnostic d'un médecin. Et il conclut avec Wrench que Lydgate, décidément, manquait trop désagréablement aux lois des convenances. Lydgate ne vit pas dans cette affaire un motif de se priser davantage ou de mésestimer plus particulièrement Minchin. De semblables redressements d'erreurs ne sont pas rares entre hommes d'égal mérite. Mais le bruit public s'empara de ce merveilleux cas de tumeur, qu'on ne distinguait pas clairement d'un cancer, et qui, pour appartenir à l'espèce voyageante, était considéré comme doublement grave. Si bien qu'une bonne partie des préjugés entretenus contre la méthode de Lydgate en matière de drogue céda devant la preuve faite de sa merveilleuse habileté dans la guérison rapide de Nancy Nash, Nancy Nash qui avait souffert 1000 morts d'une tumeur enracinée qui l'avait contrainte à disparaître. Qui pouvait faire Lydgate? À une dame qui s'émerveille de votre habileté, il est malséant de dire qu'elle se trompe et qu'elle est absurde dans son étonnement. Et quant à entrer dans l'explication de la nature des maladies, ce n'eût été qu'une infraction de plus aux convenances professionnelles. Il fut ainsi obligé de céder devant le gage de succès qu'il devait à cette louange ignorante qui passe à côté de la valeur véritable. Dans le cas d'un malade de plus en évidence, M. Borthrop Trumbull, Lydgate sentit qu'il avait fait œuvre de quelqu'un qui n'était pas le premier médecin venu, quitte à n'en recueillir encore que des suffrages équivoques. L'éloquent commissaire-priseur fut attaqué d'une pneumonie. Ancien client de Peacock, il fit chercher Lydgate, qu'il avait exprimé l'intention de patronner. M. Trumbull était un homme robuste, un sujet excellent, sur lequel on pourrait faire l'essai de la méthode expectante, suivre et noter la marche d'une maladie intéressante, abandonnée le plus possible à elle-même. Et en voyant la manière dont il décrivait toutes ses sensations, Lydgate devina qu'il aimerait à ce que son médecin le mît dans sa confidence et lui laissa en quelque sorte une part dans sa propre guérison. Le commissaire-priseur apprit sans beaucoup d'étonnement que sa constitution physique était de nature à pouvoir, sous une surveillance convenable, être abandonnée à elle-même, de manière à offrir l'exemple admirable d'une maladie clairement dessinée dans toutes ses phases, et qu'il avait probablement la rare force morale de pouvoir fournir volontairement sur lui-même la preuve d'un traitement rationnel et de faire ainsi du désordre de ses fonctions pulmonaires un bienfait général pour la société. M. Trumbull admit volontiers et partagea énergiquement l'opinion qu'une maladie chez un homme comme lui n'était pas une occasion ordinaire pour la science médicale. « Ne craignez rien, monsieur. Vous ne parlez pas à quelqu'un de tout à fait ignorant de la vis medicatrix, dit-il avec son ton ordinaire de supériorité, auquel sa difficulté à respirer ajoutait une expression légèrement pathétique. Et il supporta, sans faiblir, la privation complète de tout médicament, puissamment soutenue par l'application du thermomètre qui indiquait l'importance de sa température, par le sentiment qu'il fournissait des matières pour le microscope, et par la connaissance qu'il acquérait de plusieurs mots nouveaux paraissant appropriés à la dignité de ses sécrétions. Lydgate avait l'esprit de lui donner la jouissance de petites conversations techniques. On peut facilement imaginer que M. Trumbull quitta son lit de malade avec une forte disposition à parler d'une maladie dans laquelle il avait manifesté sa force d'âme aussi bien que la force de sa constitution. Il ne se fit pas faute d'accorder son crédit à un médecin qui avait su discerner la qualité du malade auquel il avait affaire. Le commissaire n'était pas dépourvu de générosité. Il aimait à donner aux autres ce qui leur était dû, s'en sentant les moyens. Il avait attrapé les mots « méthode expectante » et modulé des variations sur cette phrase et d'autres aussi savantes, à l'appui de sa déclaration que Lydgate savait une ou deux choses de plus que le reste des médecins, et était beaucoup plus versé dans les secrets de sa profession que la majorité de ses confrères. Un peu plus tard, la maladie de Fred Vincey était enfin venue donner à l'hostilité de M. Wrench contre Lydgate un motif personnel plus défini. Le nouveau venu, en tant que rival, menaçait de devenir une calamité, et c'était certainement déjà une calamité que les critiques et les réflexions qu'il dirigeait contre ses aînés, laborieux travailleurs, qui avait eu autre chose à faire que de s'occuper de théories non encore éprouvées. Sa clientèle s'était étendue dans plusieurs quartiers, et dès le premier moment, le bruit qu'il appartenait à une famille de l'aristocratie l'avait fait inviter à peu près partout, de façon que les autres médecins furent obligés de le rencontrer à des dîners dans les meilleures maisons de la ville. Or, être forcé de se rencontrer avec un homme qu'on n'aime pas, n'est pas toujours fait pour engendrer un attachement mutuel. Sur aucun sujet, ils n'étaient entre eux plus d'accord que pour déclarer unanimement que Lydgate était un jeune personnage arrogant et disposé, malgré cela, dans l'espoir d'occuper plus tard une situation prépondérante, à montrer envers Bulstrode une rampante servilité. Quant à M. Fairbrother, dont le nom servait de drapeau au parti anti-bulstrodien, on attribuait son habitude de défendre Lydgate et de le traiter en ami à sa façon inexplicable de combattre dans les deux camps. Il y avait là une ample préparation à l'explosion de dégoût professionnel que fit éclater l'annonce des lois que rédigeait Bulstrode pour la direction du nouvel hôpital. Loi d'autant plus exaspérante qu'il était alors absolument impossible de s'opposer à sa volonté et à son bon plaisir, tout le monde, à l'exception de Lord Medlicote, s'étant refusé à contribuer à la construction des bâtiments, sous prétexte qu'on préférait réserver son argent pour le vieil hospice. M. Bulstrode en supporta tous les frais et ne regretta pas longtemps d'avoir acheté le droit de mettre à exécution ses plans de réforme, sans rencontrer d'obstacles de la part d'associés mal disposés. Cet hôpital était devenu pour lui un objet d'immense intérêt, et il aurait volontiers continué à y mettre tous les ans une grosse somme, afin de pouvoir le diriger en dictateur sans l'assistance d'aucun conseil. Mais il avait un autre projet favori, dont l'exécution réclamait aussi beaucoup d'argent. Il voulait acheter des terres dans les environs de Middlemarch et souhaitait, en conséquence, de voir assurer le fonctionnement de l'hôpital par des souscriptions étrangères. En attendant, il poursuivait son plan d'action. L'hôpital devait être réservé aux fièvres de tous les genres. Lydgate devait avoir la haute direction médicale afin d'y poursuivre librement toutes les recherches comparatives dont ses études, à Paris surtout, lui avaient montré l'importance. Les autres médecins auraient une influence consultative, mais nul pouvoir de contrevenir aux décisions finales de Lydgate. La direction générale était remise exclusivement aux mains de 5 directeurs associés avec Bulstrode et ayant un droit de vote proportionnel à l'importance de leur souscription. Il y eut un refus immédiat de la part de tous les médecins de Middlemarch de faire des visites médicales à l'hôpital des fièvres. « Très bien, » dit Lydgate à M. Bulstrode. « Nous avons un excellent élève chirurgien, très capable d'administrer les médicaments. C'est un garçon qui a de la tête et adroit de ses mains. Nous ferons venir 2 fois par semaine Webb de Cropsley, qui est un aussi bon praticien de province qu'aucun des autres. Et pour toutes les opérations exceptionnelles, Protero viendra de Brassing. Il faudra que je travaille davantage, voilà tout, et j'ai déjà renoncé à ma place à l'hospice. Le plan réussira en dépit des autres, et alors ils seront heureux d'y entrer. Les choses ne peuvent pas durer comme elles sont. Il y a quantité de réformes urgentes, et puis il se trouvera peut-être des jeunes gens qui seront heureux de venir étudier ici. » Lydgate était plein d'ardeur. « Je ne reculerai pas, vous pouvez y compter, monsieur Lydgate, » répondit M. Bulstrode. « Tant que je vous verrai apporter votre énergie à l'exécution d'intentions élevées, vous aurez mon appui qui ne faiblira point. Et j'ai l'humble confiance que la grâce divine, qui a jusqu'ici secondé mes efforts contre l'esprit du mal en cette ville, ne me sera pas retirée. Je ne doute pas de pouvoir me procurer des directeurs capables de m'aider. M. Brooke de Tipton m'a déjà offert son concours avec la promesse de contribuer annuellement de sa bourse. Il n'a pas spécifié la somme, elle ne sera probablement pas forte, mais ce sera un membre utile dans le conseil. » Un membre utile, cela voulait peut-être dire un homme qui ne proposerait jamais rien de nouveau et voterait toujours avec Bulstrode. La version des médecins pour Lydgate ne se déguisait plus guère. Ni le docteur Sprague, ni le docteur Minchin ne se posaient en adversaire de la science et des idées de Lydgate pour l'amélioration du traitement médical. Ce qu'il n'aimait pas, disait-il, c'était son arrogance que personne ne pouvait nier. Il donnait à entendre qu'il était insolent, prétentieux, ne se jetait dans les innovations inutiles que par amour du bruit et de l'étalage, en pur charlatan. Le mot « charlatan », une fois jeté en l'air, ne pouvait manquer d'être ramassé. « Monsieur Bulstrode, ajoutaient quelques-uns, avait bien trouvé dans Lydgate l'homme qu'il lui fallait. Un charlatan de religion était fait pour aimer les autres espèces de charlatans. Après cela, on répéta dans plusieurs quartiers de la ville que Lydgate ne craignait pas de jouer avec les plus respectables constitutions pour satisfaire ses projets. Et combien était-il donc plus probable encore qu'avec ses expériences inconsidérées, il mettrait sans dessus-dessous les malades de l'hôpital. Sans compter qu'il fallait, pour comble, s'attendre, comme l'avait dit l'hôtesse du Hanap, à le voir sans scrupule découper leur corps en morceaux. Les choses en étaient là quand Lydgate s'ouvrit à Dorothée de la question de l'hôpital. Nous avons vu qu'il supportait l'hostilité et les sottes et ridicules inventions de ses adversaires avec beaucoup de bonne humeur, sentant qu'elles venaient en grande partie de ses premiers succès. « Ils ne me feront pas partir, » dit-il en causant confidentiellement dans le cabinet de M. Fairbrother. « J'ai trouvé ici une bonne occasion d'accomplir les projets qui me tiennent le plus à cœur, et je suis presque assuré d'arriver à un revenu qui suffira à nos besoins. J'avancerai peu à peu, le plus tranquillement possible. Je n'ai pas de séduction maintenant qui m'appelle hors de chez moi ou de mon travail. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il sera possible de démontrer l'homogénéité d'origine des tissus. Raspail et d'autres sont sur la même piste. Moi, j'ai perdu du temps. Je n'ai pas le pouvoir de prophétiser en ces matières, répondit M. Fairbrother, qui avait aspiré pensivement quelques bouffées de sa pipe pendant que Lydgate parlait. Mais pour ce qui est de l'hostilité de la ville, vous en viendrez à bout si vous êtes prudent. Comment faire pour être prudent? Je ne fais absolument que ce qui s'offre à moi. Je ne peux rien à l'ignorance et au dépit des autres, pas plus que Vesa l'autrefois. Il n'est pas possible de régler sa conduite sur des éventualités absurdes que personne ne saurait prévoir. « Parfaitement vrai. Je ne voulais pas dire cela. Je ne parlais que de deux choses. L'une, c'est de vous tenir aussi indépendant que vous pourrez de Bulstrode. Vous pouvez sans doute, en marchant avec lui, continuer à faire d'utiles travaux pour vous-même, mais ne vous laissez pas lier. Peut-être vous semble-t-il que c'est un sentiment personnel qui me fait parler. Et il y a bien un peu de cela, je l'avoue. Mais le sentiment personnel n'a pas toujours tort. » quand on le réduit à des impressions qui n'en font qu'une simple opinion. « Bulstrode ne met rien, » dit Lydgate avec insouciance, « en dehors de l'intérêt public. Quant à lui être étroitement lié, je ne l'aime pas assez pour cela. Mais quelle était l'autre chose que vous vouliez me dire » ajouta-t-il en se caressant la jambe le plus confortablement du monde, sans se sentir grand besoin de conseil. « Eh bien, voici. Prenez garde. Experto crede. Prenez garde de vous laisser empêtrer dans des affaires d'argent. Je sais, par un mot qui vous est échappé un jour, que vous n'aimez pas mon habitude de tant jouer d'argent aux cartes. Vous avez assez raison en cela. Mais tâchez de ne jamais tomber dans cette situation, d'avoir besoin de petites sommes que vous n'avez pas. Ce que je vous dis là est peut-être superflu, mais on est toujours porté à se ménager à soi-même une certaine supériorité, en donnant aux autres à la fois le mauvais exemple et le bon sermon. » Lydgate, qu'il ne les eût guère acceptés d'un autre, accueillit très cordialement les allusions de M. Fairbrother. Il ne put s'empêcher de se souvenir qu'il avait contracté dernièrement quelques dettes, mais celles-là lui avaient paru inévitables, et il n'avait pas l'intention maintenant de faire autre chose que de vivre sur un pied modeste. Le mobilier pour lequel il s'était endetté n'aurait pas besoin d'être renouvelé, ni la cave non plus, d'ici longtemps. Bien des pensées le réjouissaient à cette heure, et avec raison. Quand un homme se sent de l'enthousiasme pour un but noble et élevé, il est soutenu dans les petites hostilités par la mémoire des grands travailleurs qui ont dû, eux aussi, se frayer un chemin par la lutte et non sans blessure, et qui planent dans son esprit comme de saints patrons lui prêtant une aide invisible. Un peu plus tard, dans cette même soirée où il avait eu cette conversation avec M. Fairbrother, il était chez lui, ses longues jambes étendues sur le divan, les mains croisées derrière sa tête, renversées en arrière, dans son attitude favorite de méditation. Rosemonde, assise au piano, jouait une mélodie après l'autre, et tout ce que son mari, l'éléphant sensible qu'il était, en savait, c'est qu'elle s'accordait avec sa disposition d'âme, comme de mélodieuses brises de mer. Il y avait à ce moment quelque chose de très beau dans le regard de Lydgate, et quiconque l'aurait vu aurait été tenté de parler pour son œuvre. Dans ses yeux noirs, sur sa bouche et sur son front, régnait cette placidité qui vient de la plénitude des pensées contemplatives, alors que l'esprit ne cherche pas, mais contemple seulement, et que le regard semble rempli de ce qu'il y a derrière lui. Rosemonde quitta le piano et vint s'asseoir sur une chaise, tout près du divan, en face de son mari. « Est-ce assez de musique pour votre agrément, mon seigneur ?» dit-elle, en joignant les mains sur ses genoux et en revêtant un petit air d'humilité. « Oui, cher, si vous êtes fatigué, » répondit Lydgate doucement, en tournant les yeux et en les attachant sur elle, mais sans bouger autrement. La présence de Rosemonde en ce moment ne comptait peut-être pas plus qu'une goutte d'eau apportée à un lac, et son instinct de femme ne s'y trompa pas. « Qu'est-ce qui vous absorbe ?» demanda-t-elle, se penchant en avant et rapprochant son visage de celui de Lydgate. Il décroisa ses mains et les passa doucement derrière les épaules de sa femme. « Je pense à un grand homme qui était à peu près de mon âge, il y a 300 ans, et qui avait déjà ouvert à l'anatomie une ère nouvelle. « Je ne puis deviner, » dit Rosemonde en secouant la tête. « Nous avions l'habitude, en jouant, de deviner les personnages historiques chez Mrs. Lemon, mais pas des anatomistes. « Je vais vous le dire, son nom était Vésale, et sa seule ressource pour arriver à connaître l'anatomie, comme il l'a fait, c'était d'aller déterrer les cadavres la nuit dans les cimetières et les lieux d'exécution. « Oh !» fit Rosemonde avec une expression de dégoût sur sa jolie figure. « Je suis bien contente que vous ne soyez pas Vésale. N'aurait-il pas pu trouver un moyen un peu moins horrible que celui-là » « Non, il ne le pouvait pas, » dit Lydgate, poursuivant trop gravement sa pensée pour prêter beaucoup d'attention à sa réponse. Il ne put se procurer un squelette complet qu'en enlevant du gibet les os blanchis d'un criminel. Il les enterra, et en secret il allait les chercher dans le silence de la nuit. « J'espère que ce n'est pas un de vos grands héros, » dit Rosemonde, moitié gaiement et moitié avec inquiétude, « sans quoi vous allez vous lever au milieu de la nuit pour vous rendre au cimetière de Saint-Pierre. Vous savez combien vous m'avez dit que les gens étaient fâchés, ici, à propos de Mrs. Gobe. Vous avez déjà assez d'ennemis. Ainsi en avait Vésale, Rosie. » Il n'est pas surprenant que les petits médecins aveugles de Middlemarch soient jaloux quand quelques-uns des plus grands docteurs se sont montrés féroces contre Vésale, parce qu'ils avaient cru en Galien et que Vésale a démontré que Galien était dans l'erreur. Ils l'ont traité d'imposteur, de monstre venimeux. Mais la charpente humaine était un fait, et le fait était pour lui, et il s'en est tiré à son honneur. « Et qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite ?» demanda Rosemonde avec un peu plus d'intérêt. « Oh, il a eu bien des luttes à soutenir jusqu'à la fin, et à un certain moment, elles l'ont assez exaspéré pour lui faire brûler une bonne partie de ses œuvres. Et puis, il a fait naufrage en se rendant de Jérusalem à Padoue, où il allait occuper une chaire. Il est mort assez misérablement. » Il y eut un moment de silence avant que Rosemonde reprît. « Savez-vous, Tertius, j'ai souvent souhaité que vous n'eussiez pas été médecin. »« Non, Rosie, ne dites pas cela, » dit Lydgate, en l'attirant plus près de lui. « C'est comme si vous disiez que vous voudriez avoir épousé un autre homme. » »« Pas du tout. Vous avez assez de talent pour être propre à tout. Vous auriez pu aisément devenir tout autre chose. Et vos cousins, à Quarlingham, pensent tous que vous êtes descendu au-dessous d'eux en choisissant votre profession. » Que les cousins de Quarlingham aillent au diable. Cela ressemble bien à leur impudence de vous tenir à vous un semblable langage. Pourtant, dit Rosemonde, je ne trouve pas que ce soit une belle profession, mon ami. Nous savons qu'elle avait dans ses opinions beaucoup de calme ténacité. C'est la plus grande profession du monde, Rosemonde, répliqua Lydgate gravement. Et me dire que vous m'aimez sans aimer en moi l'homme médecin, c'est la même chose que de dire que vous aimez la pêche, mais que vous n'en aimez pas l'arôme. Ne dites plus cela, chérie, cela me fait de la peine. « Très bien, docteur, grave visage, » dit Rosie en montrant ses fossettes. « Je déclarerai à l'avenir que je raffole de squelettes et de déterreurs de cadavres et de petits fragments contenus dans des fioles et de querelles avec tout le monde, qui aboutiront à vous faire mourir misérablement. « Non, non, pas si terrible que cela, » dit Lydgate, renonçant à lui faire plus ample remontrance et se résignant à la caresser.